Qu'est-ce qu'un sociologue, enfin, en l'occurrence une sociologue, peut avoir à dire sur une problématique éminemment issue des sciences de la vie ? Je suis sociologue de l'environnement et des risques environnementaux, c'est-à-dire que je m'intéresse aux interactions potentiellement problématiques entre l'homme et la nature. Et de ce fait, très tôt, j'ai été amenée à travailler avec les sciences de la vie, parce que nous sommes face à des objets qui finalement sont au cœur de l'interaction entre le biologique et l'humain. Alors forcément, en tant que sociologue, on a un regard complètement différent qui peut parfois faire grincer des dents, surtout que des fois on manque un petit peu de pincettes pour exprimer ces regards-là. Avec l'expérience, je sais qu'au final, c'est toujours bénéfique. C'est-à-dire que même si ce qu'on propose dérange, agace, ça a au moins le mérite de porter un regard différent qui amène à se questionner un petit peu différemment. Alors, le fichier n'est toujours pas ouvert, mais...
Une assistance technique ?
Bah non, hein, cliquez sur une icône PDF, normalement ça va bien. Voilà, c'est bon.
Est-ce que j'approche ?
Ben voilà, tu vois, tu t'approches, la machine se soumet. Alors, dans le monde occidental contemporain, les préoccupations environnementales sont nées de la dénonciation de la raréfaction du vivant. On a été alerté à partir des années 60-70 sur les espèces en voie de disparition, les seuils d'irréversibilité, l'érosion de la biodiversité. Et un peu plus tard, est arrivée cette notion d'espèce invasive, et avec la proposition de liste d'espèces invasives, on change alors là, d'une certaine façon, de problématique. Parce que les invasions biologiques résultent, selon l'article 8 de la Convention en biodiversité, résultent de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques menaçant les écosystèmes, les habitats et les espèces, causant des dommages environnementaux et économiques. Donc on est d'emblée là dans une interaction entre la nature et l'humain. Et en fait, ce nouveau champ lexical de l'invasion biologique reformule l'ancienne rhétorique des discours construit sur la dénonciation de la raréfaction. Le vivant est désormais appréhendé dans sa quantité, mais aussi dans, d'un point de vue plus qualitatif, ce qui complexifie la notion de biodiversité. Et de ce fait, la nature devient ou redevient fluctuante, rare ici, proliférante là, aujourd'hui ou demain. Menacée ou menaçante, elle est tour à tour proie ou prédateur. Alors le concept d'invasion biologique, vous le savez mieux que moi, ceux qui viennent des sciences de la vie, a été formulé au départ par l'écologue John Elton, dès 1958. Mais en fait, le développement de cette notion d'invasion biologique a été bien plus tardif. On observe un bloom, pour reprendre un vocabulaire de la biologie, on observe un bloom dans les années 80 aux USA, et puis nous en France, on arrive toujours un petit peu après, donc années 90-2000, dans la littérature francophone. Alors, les définitions varient, mais quand même, on a un tronc commun que l'on observe dans les différents textes scientifiques institutionnels. Par exemple, l'IUCN donc définit les espèces exotiques, qu'on appelle aussi alloctones, je cite, « comme une espèce ou une sous-espèce introduite hors de son aire de répartition normale, présente ou passée, comprenant toutes les parties, gamètes, graines, œufs ou propagules de la dite espèce, pouvant survivre et se reproduire. » Ça, vous connaissez. Donc, en fait, l'invasion biologique résulterait d'une transgression de frontières spatiales et temporelles. Identifier une espèce comme alloctone ou autochtone, c'est pouvoir répondre à deux questions. Est-elle d'ici ou d'ailleurs? Et depuis quand? Alors, dans la littérature, comme dans les enquêtes sociologiques que j'ai pu mener auprès des acteurs sociaux, des experts, des gestionnaires, des scientifiques, tous soulignent la difficulté de cet exercice de répondre à ces deux questions. Les données manquent, mais surtout, ce qui manque le plus, c'est ce fameux point zéro, à partir de quand compare-t-on? Alors, première question, depuis quand? Alors, pour répondre à cette question, les biologistes tendent à opérer un glissement de l'histoire naturelle vers l'histoire des sociétés humaines. 1. La découverte de l'Amérique, qui symbolise les grandes colonisations, serait le temps 1 de l'ère des invasions biologiques. 2. La révolution industrielle et ses grands travaux d'aménagement seraient le temps 2 des invasions biologiques. Enfin, la période contemporaine et la mondialisation des échanges seraient le temps 3. Alors, ces trois temps sont considérés comme des seuils d'accélération des introductions d'espèces et donc des risques d'invasion biologique. Alors, l'argument de l'augmentation rapide à partir du XVe siècle, exponentielle à partir du XIXe siècle, donc cet argument de l'augmentation de la circulation des biens, des personnes et des espèces s'appuie sur des faits bien réels. On ne peut pas les contester. Toutefois, un seuil contient aussi toujours une part d'arbitraire qui adjoint aux critères scientifiques des dimensions sociales, culturelles et ou économiques. Alors le choix du XVe siècle est explicitement corrélé à la découverte de l'Amérique et au début des grands voyages d'exploration et de colonisation. Le XIXe siècle est associé à l'essor de la modernité. J'ai en face de moi des intellectuels, des naturalistes, des gestionnaires, plutôt de gauche. Et le regard que pose cet intellectuel occidental contemporain sur ces périodes est tout à la fois empreint d'admiration et de culpabilité. Et l'image de Caravelle, de Christophe Colomb, appris très tôt sur les bancs des écoles, sur lesquelles nous sommes les uns et les autres restés plutôt longtemps, donc cette image appartient au mythe fondateur de la civilisation occidentale, prémisse de sa gloire, mais aussi de ses perversions. Et ces trois phases de montée en puissance de la civilisation occidentale, colonisation, industrialisation, mondialisation, sont ainsi mises en regard avec trois niveaux de gravité d'invasion biologique, dénonçant en cela les méfaits de la culture sur la nature, mais entrelaçant du même coup changements sociaux et changements environnementaux. On est face à ce qu'on appelle un glissement taxinomique. Hein, taxinomie, vous connaissez bien, sens de la vie. Donc on est face à un glissement taxinomique de l'histoire naturelle vers l'histoire humaine. Et ce glissement jette le doute sur la robustesse de la dichotomie entre nature et culture. Alors les paradoxes taxinomiques se poursuivent lorsqu'il s'agit de circonscrire les causes des invasions biologiques. Les définitions vont principalement dans le sens d'une origine exclusivement anthropique de ce processus. Ce que j'appelle, moi, un rousseauisme biocentrique. La nature est naturellement bonne, c'est l'homme qui l'a pervertie. Alors, il existerait, quand on lit les articles spécialisés sur les invas bio, donc il existerait des invasions biologiques normales, c'est-à-dire entendues comme naturelles, relevant du caractère dynamique des écosystèmes. Et puis, il existerait des invasions biologiques anormales, puisque d'origine anthropique. De surcroît, le caractère anormal de ces processus tiendrait à leur capacité à produire d'indésirables changements environnementaux et sociaux. Alors, il y a aussi la notion d'espèce naturalisée. Alors, la notion d'espèce naturalisée introduit une nuance à cette correspondance entre, d'un côté, le normal et le naturel, et de l'autre côté, l'anormal et l'anthropique. Alors, dans le cas de l'espèce naturalisée, on est certes face à une espèce exotique introduite, mais son développement n'est pas considéré comme problématique. L'idée qui sous-tend la notion d'espèce naturalisée est qu'il peut exister de bonnes exotiques. Alors, deux critères principaux conditionnent cette qualification positive. 1. Son intégration non problématique à l'écosystème, qui prend la forme de ce que les anglo-saxons appellent the washing away of human influence. On ne voit plus, donc on nettoie l'influence humaine. Mais, paradoxalement, ce qui permet de qualifier positivement ces espèces naturalisées, ça va être aussi leur utilité auprès de l'espèce humaine. Et inversement, une espèce exotique va aggraver son cas si non seulement elle affecte les écosystèmes, mais en plus, elle perturbe les activités humaines. Et finalement, ce dualisme entre les bonnes et les mauvaises espèces exotiques procède d'un va-et-vient entre un argument biocentrique, bon ou mauvais pour l'écosystème, et un argument anthropocentrique, bon ou mauvais pour l'être humain. Et de ce fait, l'homme est tour à tour désigné comme un coupable ou comme une victime. Il est parfois, généralement d'ailleurs, désigné et comme coupable et comme victime. Alors, il y a aussi, vous vous rappelez dans la définition que j'avais mentionnée au tout début, les conséquences environnementales et économiques. Alors, je ne ferai pas de discrétion, sinon je ne vais pas maîtriser le temps de mon intervention, mais pourquoi économique, pourquoi pas social de façon générale ? Parce qu'on est dans un monde où on peut résumer assez facilement nos sociétés par l'économique, c'est un argument de poids. Mais cet argument des conséquences économiques, qui est mobilisé pour dénoncer les invasions biologiques, peut parfois se retourner contre les naturalistes. Alors, l'exemple des plantes horticoles est particulièrement éloquent à ce titre. Alors que les naturalistes se livrent à une lutte parfois acharnée contre certaines plantes exotiques envahissantes, au même moment, les catalogues et les sites internet des grandes enseignes de l'horticulture en vantent les mérites et les vendent à profusion. Alors parfois, l'autochtonie des plantes est prise en compte par le monde de l'horticulture lorsqu'elle peut être mobilisée comme un argument de vente. Alors, à l'époque où j'avais commencé mes travaux sur les invasions biologiques, c'était en région méditerranéenne et en Provence, j'avais pu observer, au milieu des années 2000, une mode pour les jardins méditerranéens, les jardins provençaux plus précisément aussi. Alors toutefois, l'ennemi des plantes exotiques envahissantes ne pourra pas crier victoire trop vite. Car si les appellations jardin provençal ou jardin méditerranéen évoquent pour lui une liste précise d'espèces locales, elles sont en revanche synonymes de rêve et d'imaginaire pour le professionnel de l'horticulture et sa clientèle, qui s'affranchit aisément des lois de la botanique. Par exemple, en Camargue, au même moment où les naturalistes se battent contre l'herbe de la pampa, pourtant la bien nommée pampa, les professionnels des espaces verts et les habitants les plantent en trouvant que c'est une espèce qui est typiquement camarguaise. Ça fait camarguer, c'est des plumeaux, ça fait marrer. Okay. Il en est de même pour les griffes de sorcières sur les îles de Porquerolles, de Porquerolles, où au même moment où les gestionnaires tentent désespérément d'arracher ces espèces-là, les usagers trouvent que ça fait vraiment une plante typique, et les cartes postales ne manquent pas de mettre en valeur les jolies fleurs violettes de la plante. Mais ça va plus loin. Parce qu'il y a aussi certains paysagistes. Alors, à l'époque, j'avais écrit « avant-gardiste ». C'était il y a une petite dizaine d'années. On va considérer encore qu'ils sont avant-gardistes. Donc il y a certains paysagistes avant-gardistes qui, eux, vont jusqu'à s'opposer ouvertement à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et les années 2000 sont particulièrement marquées par cette mouvance paysagiste qui conteste les anciennes frontières entre le naturel et le domestique et qui vont valoriser ce qu'ils appellent les mauvaises herbes utiles du jardin, la splendeur ou l'harmonie des plantes libres, et la littérature dans le domaine dans les années 2000 est particulièrement prolifique. Alors les attaques les plus vives furent certainement celles de Gilles Clément. Donc, dans son éloge des vagabondes, il dénonce l'intégrisme et l'imposture des biologistes, je cite, des invasions biologiques en particulier, et de l'écologie de la conservation en général. Il, je cite, s'oppose à une attitude aveuglément conservatrice. Alors, les mésententes les plus rudes sont souvent celles qui opposent des acteurs ayant des centres d'intérêt proches. Et les écologues gestionnaires d'un côté et les jardiniers paysagistes de l'autre ont en effet en commun un même héritage, celui des sociétés savantes d'acclimatation des siècles passés. Alors, la communauté scientifique était, hier encore, un acteur central du développement des introductions volontaires. En France, il y a encore quelques décennies, la Société nationale de protection de la nature s'appelait Société d'acclimatation et de protection de la nature. Pour certains biologistes, cet héritage est une erreur de jeunesse de leurs prédécesseurs, et ils tentent de la corriger, voire de la racheter, en luttant contre la prolifération des exotiques. Pour certains paysagistes, cet héritage, au contraire, représente les prémices de ce que Clément appelle le jardin planétaire, permettant d'élargir la palette végétale à leur disposition, permettant des créations peut-être débridées. Alors, ce débat, parfois passionné, a mobilisé des mots qui n'étaient pas neutres. Et les concepts scientifiques prêtent le flanc à d'inextricables ambiguïtés lexicales. L'écologue Christian Lévesque parle d'émeute terminologique. Alors, le vocabulaire des sciences de la vie en général et de la biologie des invasions en particulier se caractérise par un recours abondant à la métaphore guerrière, véhiculant des imaginaires ancestraux venant alimenter les nouvelles peurs que provoque le dérèglement des éléments naturels. Le pullulement, le parasite, l'invasif, l'hybride sont autant de figures péjorativement dépeintes, constituant ce que l'écologue québécois Brandon Larson a appelé la guerre des roses. Alors l'abondance désordonnée des espèces est implicitement ou explicitement associée au désordre des sociétés humaines. Cette peur du désordre a pour corollaire la peur d'en perdre le contrôle. Et c'est là un des grands paradoxes de la gestion de la nature. L'expression est en elle-même contradictoire. Si la nature est ce qui ne relève pas de l'humain, alors toute forme d'intervention gestionnaire dénature par essence l'écosystème concerné. La formule de Raphaël Larère est à ce titre éloquente. Il nous parle d'un sauvagement artificiel. Et ce sauvagement artificiel prend des formes exacerbées dans la lutte contre les invasions biologiques, conduisant les tenants du biocentrisme à un interventionnisme accru. La protection de la nature devient création, voire recréation de la nature. C'était d'ailleurs, il y a quelques années, le titre d'un programme de recherche financé par le ministère de l'Écologie. Alors, certains gestionnaires d'espaces naturels sont conscients d'un tel paradoxe, mais peinent à trouver une issue à ce qui peut parfois devenir un cercle vicieux de l'interventionnisme naturaliste. Alors, par exemple, en Camargue, ce gestionnaire, lors d'un entretien sociologique, m'explique. Pour moi, un bel espace, c'est quelque chose qui fonctionne le plus naturellement possible. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas le recul. Et je lui réponds, c'est peut-être une question de patience. Et lui, oui, mais bon, en tant que gestionnaire, ben, on est aussi payé. Enfin, c'est notre métier, quoi. Tous les conservateurs de réserves naturelles et tout, ils sont évalués aussi sur leur capacité à sauver ou à maintenir de la biodiversité, qui est de plus en plus menacée, non seulement par les espèces invasives, mais par d'autres trucs. Et moi qui poursuis. Pour un gestionnaire, c'est difficile de dire « je laisse faire et ça va se régler tout seul ». Et lui qui répond « voilà, moi, j'arrive pas ». Alors, le gestionnaire devient jardinier de la nature et découvre malgré lui ce fameux cercle vicieux de l'interventionnisme. La main qu'il souhaite poser sur la nature pour panser les plaies que sa propre espèce a causées l'entraîne dans une artificialisation paradoxale à laquelle il semble ne plus pouvoir échapper. Le gestionnaire est ici face à deux grandes difficultés. Accepter de ne pas tout contrôler et faire avec l'inadéquation entre les échelles de temps. Et en effet, le temps long de la nature, dont l'illusoire immuabilité rend insoutenable à nos yeux d'êtres humains, la soudaineté des changements. Ce temps long de la nature se trouve en inadéquation avec le temps anthropique et notamment ses exigences politiques et économiques. Cette inadéquation entre échelles de temps est renforcée par le postulat de la stabilité, cette illusion anthropocentrique de stabilité de la nature, ce jardin d'Éden, ce fameux climax, cette notion que les biologistes essayent de pousser hors de leur pensée, mais on la fait sortir par la porte et elle revient par la fenêtre, cette notion de climax, hein, cette idée qu'il existerait un état idéal d'équilibre de la nature. Hein. Et du coup, il y a une difficulté à faire le tri entre nuire à la nature et changer la nature. Et ce sont parfois les mêmes naturalistes qui condamnent les espèces exotiques invasives et qui, au même moment, vont prôner la création de couloirs écologiques, figeant certaines espèces et incitant d'autres à se déplacer. Ça fait un petit peu policier, circulation, toi tu passes pas, etc. Et là, on a une anthropologue, Françoise Dubost, qui s'interroge à ce propos. Elle nous dit « Sauvegarder le sauvage, cultiver le sauvage, est-ce que c'est le retour du naturel ou bien est-ce que c'est le comble de l'artifice? Est-ce que c'est l'étape ultime de la domestication de la nature ou bien est-ce que c'est la nouvelle règle du jeu de la liberté du vivant ?» Alors ces résistances face au changement sont aussi nourries par une idéalisation d'un certain passé. Ce passé fantasmé serait celui d'une ère prémoderne durant laquelle l'humanité savait vivre en harmonie avec la nature. Alors l'histoire sociale et environnementale nous montre que cette harmonie supposée entre les anciens et la nature est largement surinterprétée. Et qu'il n'y a pas fallu attendre la modernité pour que l'être humain affecte de façon extrêmement forte les écosystèmes. Alors cette peur du changement et cette idéalisation d'un certain passé, associée à un champ lexical guerrier, a amené certains chercheurs en sciences humaines à s'interroger sur les dérives possibles de ce qu'ils appellent le nativisme biologique et le trouble entre des concepts scientifiques, politiques et moraux. Alors ça s'est passé aux États-Unis dans les années 90-2000. On a eu vraiment des controverses entre biologistes et sciences humaines extrêmement virulentes. Vous savez, un peu à l'américaine, là, les joutes oratoires extrêmement fortes dans la littérature. Alors, mes petits camarades philosophes, sociologues américains s'en sont donnés à cœur joie. Ils n'hésitent pas à faire des parallèles entre le vocabulaire des biologistes, le vocabulaire des politiques de maîtrise des immigrés aux États-Unis. Je ne suis pas pour cette guerre des sciences. Et c'est pour ça qu'en France, notamment grâce à différents programmes de recherche, nous avons plutôt prôné un développement de l'interdisciplinarité. Au lieu de partir armer l'un et l'autre, c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison, etc., on s'est dit on va essayer de travailler ensemble. Alors, on s'est aussi disputé, je vous rassure. Mais comme dit le philosophe allemand Simmel, le conflit est une forme de socialisation. Et je pense que nous avons réussi à avancer depuis ces débats des années 90, et notamment de la façon suivante. C'est qu'en travaillant ensemble, en se disputant parfois, nous sommes au moins arrivés, je pense, à une conclusion partagée. Les sciences humaines acceptent aujourd'hui de reconnaître la matérialité des processus biologiques. De dire oui. Voilà. Et les sciences de la vie acceptent, en tout cas pour certains d'entre chacun, on a toujours des radicaux de part et d'autre, mais les sciences de la vie acceptent aussi d'entendre qu'un fait scientifique a aussi un contexte social, un contexte culturel, des enjeux politiques, économiques, et que plutôt que de ne refuser de voir ça, la meilleure façon de pallier ces influences-là, c'est de les connaître, de les prendre en compte pour mieux les maîtriser. Alors, quelques mots pour ne pas conclure. C'est une conférence introductive, donc si je conclue dès maintenant, voilà, c'est plutôt un petit mot pour ouvrir la journée. Donc finalement, en définissant une espèce comme étant d'ici ou d'ailleurs, d'hier ou d'aujourd'hui, l'être humain, qu'il soit scientifique, simple habitant, sociologue ou gestionnaire, se livre à un exercice taxonomique tout aussi indispensable à sa compréhension du monde que vain dans son exactitude, tant les objets se montrent récalcitrants et les frontières perméables. Qu'il lutte pour ou contre les espèces invasives, les différents acteurs rencontrés lors de mes études semblent en fait participer à une étrange dramaturgie au sein de laquelle ils se disputent l'interprétation d'un même rôle, celui de jardinier de la nature. Alors les plus radicaux classent l'être humain au sommet des espèces invasives, ravivant pour l'occasion de vieilles théories eugénistes. Je ne me retournais pas dans cette démarche-là. D'autres, en revanche, concède une trêve dans les dénonciations culpabilisatrices de l'être humain. Les plus hardis, comme l'écologue américain Rosenzweig, proposent ce qu'il appelle une win-win écologie, prônant une réconciliation entre la nature et la culture. Finalement, les différents acteurs sociaux, scientifiques, les jardiniers, les gestionnaires, les usagers, ne partagent-ils pas la même peur face à ce que le sociologue anglais Stephen Yearley appelle la fin de la nature, ou bien l'humanisation de la nature. Ce qui finalement, dans les deux cas, amène l'être humain à la difficulté d'apprendre à vivre après la nature. Je vous remercie pour votre attention.
Avec cette introduction qui nous permet de rentrer de plein pied dans notre sujet. Peut-être on va prendre une ou deux questions pour pouvoir enchaîner et garder notre timing. Une ou deux questions, une ou deux remarques.
Ça va être complètement déconnecté, j'en suis navrée, hein, et j'ai beaucoup apprécié votre exposé. C'est juste une interpellation. À un moment donné, vous dites que dans votre approche, et je me demandais si c'était un constat lié à vos travaux ou si c'était une appréciation personnelle, votre public était plutôt à tendance de gauche. Est-ce que c'est l'appréciation de la nature et politisée?
Alors là, c'était une petite boutade. Ça c'est un trait sociologique général. Les intellectuels qui se caractérisent par une forte dotation en capital culturel et une moindre dotation en capital économique sont en effet le vivier de l'électorat de gauche. Avec ceci étant un petit paradoxe que je n'ai pas trop évoqué ici pour éviter d'emblée les trucs un peu agressifs. Historiquement, les premiers intellectuels qui se sont saisis de cette question des espèces exotiques, avant même que la notion d'invasion biologique soit formulée comme concept, ce sont les naturalistes du Troisième Reich, qui a priori n'était pas tellement de gauche, quoique c'était du socialisme. Il y avait le mot socialiste hein, au départ. Donc,
avant qu'on parle de gauche ou de droite, il y a aussi quand même quelques naturalistes célèbres, y compris dans le XIXe siècle.
Je parlais vraiment de la période contemporaine, ouais, je suis d'accord avec vous.